Chapitre 3. Un petit coup frappé à la porte de Madame Jacquier tira Juliette de sa rêverie. Elle se leva, après un coup d'œil à la large figure blanche qui dormait, un peu inclinée et enfouie dans le coussin de peluche d'un rouge sombre. « Veuillez appeler madame !» chuchota la bonne dans le couloir, aussitôt que la porte fut ouverte. « Monsieur Jacquier l'appelle ?» demanda Juliette involontairement. « Monsieur vient de mourir, » dit la pauvre fidèle domestique qui couvrit son visage de ses mains et sanglota. « Est-ce que madame dort ? Oh, peut-on bien dormir ?» Elle était très énervée, fit Juliette. Elle s'est endormie de lassitude. Aurais-je dû la tenir éveillée ? Je ne savais rien. Personne ne nous a donné de nouvelles et moi, seule avec madame Jacquier, j'ai été trop heureuse de la voir se tranquilliser. » Le docteur est là, il dit qu'il y a eu comme un arrêt du cœur. Monsieur Antoine ne veut pas le croire et il parle à son père. Ça fait mal de l'entendre. Juliette demeurait saisie. Sans rien ajouter, elle rentra dans la chambre et s'agenouilla doucement près de la chaise longue. « Chère madame, réveillez-vous » fit-elle à demi-voix, passant sa main sur la joue molle de madame Jacquier. « Réveillez-vous !» « Ne dites rien, ne recommencez pas à pleurer. On vous appelle. Vous frissonnez ? Oui, la nuit est fraîche et j'ai entrouvert la fenêtre. Voici votre châle. » « Je n'ai pas dormi du tout, n'allez pas le croire, » gémit madame Jacquier. « Vous m'aviez dit de me tenir tranquille, je l'ai fait. Mon mari m'appelle donc ? Ouvrir la fenêtre à 3 heures du matin, quelle idée bizarre ! Je me serais enrhumée, moi qui m'enrhume si facilement. » Elle s'enveloppa du châle de fine laine blanche que Juliette lui tendait. Elle se dirigeait vers la porte quand la jeune fille la suivit. Comment, oh, comment la laisser sans rien lui dire, entrer dans cette chambre où régnait le grand silence. Il y a eu un changement, murmura Juliette. La bonne vient de me l'annoncer. Le docteur est là, mais... Mais, répéta la pauvre femme qui s'arrêta, regarda Juliette, puis courut, les mains étendues, vers la porte voisine que la bonne, sur le qui-vive, tenait entrebâillée. Juliette entendit un cri perçant, puis une confusion de sanglots et de paroles, des voix adoucies, apaisantes, celles du docteur et d'André Humbert. Mais elle n'entendit pas celle d'Antoine. Elle s'en alla tout au fond du couloir, jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin, et resta là, accoudée dans la croisée, regardant le gris nacré et vague de la rosée sur les longues prairies, dans la blancheur du matin, et le grand ciel pâle, transparent, où déjà tremblait la lumière lointaine. Juliette ouvrit la fenêtre. L'air entra comme joyeux, comme une essence de force et de jeunesse, renouvelée, pure, la vie nouvelle d'un jour nouveau. Cet air du matin qui a passé sur la rosée et sur les branches et que personne en route n'a respiré, coulé dans tout l'être comme un breuvage limpide, vous enveloppe, vous baigne, vous électrise subtilement, et le délicieux silence qui glisse avec lui et la charmante solitude de cette heure où les champs n'ont pas de maître rajeunissent le coin de terre dont la veille on était si las. Une grande pitié saisit Juliette pour celui qui jamais ne respirerait plus l'air du matin, et elle se dit qu'à le voir, courbé et triste, il avait eu peu de joie dans sa vie. « Voulez-vous nous aider encore ?» demanda André Humbert qui se trouva derrière elle. « Oh, bien volontiers, dites-moi ce que je peux faire. » Madame Jacquier est très ébranlée. Julie va la conduire dans sa chambre, mais il faudrait rester avec elle, la calmer. « Chez vous, on ne sera pas inquiet, car avant de descendre au village, j'ai dit un mot à votre vieux cousin qui se trouvait sur le seuil, et je l'ai prié d'avertir votre mère. »« Merci, » dit-elle, attendant autre chose, car elle le voyait hésiter. « Madame Jacquier, » continua-t-il, « dit des choses bien dures, injustes pour Antoine, des choses qu'il aura de la peine à oublier. » « Mais moi, » fit promptement Juliette, « je les oublierai à l'instant même où je les entendrai. » « Oui, et la pauvre femme, dans quelques jours, regrettera de tout son cœur de les avoir prononcées. Elle est malade, ce coup l'a bouleversée. Antoine ne proteste même pas. Ils parlèrent encore pendant quelques minutes de ce qu'il y aurait à faire aussitôt que le jour serait venu. « Je voudrais épargner à Antoine toutes les corvées pénibles. Malheureusement, je suis bon à peu de choses, » dit André dont la voix s'altéra un instant. « Au lieu de passer tant d'heures à dessiner, j'aurais dû apprendre à écrire. Je pourrais alors faire à la place d'Antoine toute la correspondance nécessaire. Ils ont beaucoup de parents éloignés qu'il faut prévenir. » « Si nous n'étions pas, » dit Juliette qui rougit un peu, « si étrangère à la famille Jacquier, nous nous connaissons depuis quelques semaines seulement, je prierai Madame Jacquier de disposer de nous. Maman s'emploierait très volontiers à ce qu'il faudrait. Écrire, chacun peut le faire, mais personne ne saurait vous remplacer auprès de votre ami. » Sans André, en effet, Antoine Jacquier, dans l'emportement de sa douleur qui irritait follement, comme un aiguillon irrite une plaie, l'égoïste et âcre lamentation de sa belle-mère, Antoine se fût abandonné à des représailles, même devant les yeux à peine clos de son père. Il n'aurait dit que deux ou trois mots, peut-être, mais de ces mots qui s'enfoncent comme une lame. Il était prêt, tout à l'heure, à engager sa vie. Il n'en eût pas maintenant donné volontairement une minute à cette femme dont la douleur lâche rendait la sienne hautaine et glacée. « Tu n'as pas même une larme pour ton pauvre père !» gémissait Madame Jacquier fondue en eau sur le petit sofa où elle s'était jetée. « Oh, tu as le cœur dur! Tu as le cœur dur! Pourquoi l'as-tu laissé mourir ainsi? L'as-tu embrassé seulement? Il ne m'a rien dit! Tu as tout voulu pour toi! Tu m'as fait garder à vue dans ma chambre par cette jeune fille. C'était un complot pour m'éloigner de mon cher mari si bon. Il m'aurait dit ses volontés, mais maintenant je ne saurais rien et me voilà seule, seule, avec un fils qui ne m'aime pas. Oh, quel deuil, quel deuil! Je n'ai plus personne !» Antoine se tenait aussi loin d'elle que possible, debout dans l'embrasure de la fenêtre, tout au fond de la chambre, et André, près de lui, parlait à voix basse. « tu l'entends, » murmurait Antoine, les dents serrées. « Voilà la vie qu'a eue mon pauvre père. En cet instant même, cette femme ne pense qu'à elle et se demande à qui elle se cramponnera désormais. Quand elle parle des dernières volontés de mon père, c'est là ce qu'elle entend. « Peut-être, mais elle espère un mot de toi, » dit André. « J'ai pitié d'elle, car elle a tout perdu. »« Et moi ?» fit Antoine, qui n'acheva pas et sanglota tout haut. Dans ce coin sombre, appuyé sur l'épaule de son ami, il pouvait pleurer et, avec ses larmes, s'écouler l'âpre et méchant désir de représailles. « Dis-lui un mot, » exhortait André à voix basse. « Vous avez le même chagrin qui devrait vous réunir. » Le docteur, pendant ce temps, s'était entretenu avec Julie. Il s'approcha de Madame Jacquier. « Vous devriez vous retirer dans votre chambre, madame, » dit-il. « La bonne et moi, et votre fils, nous suffirons à ce qui reste à faire. » Il avait été un ami de M. Jacquier et désirait maintenant agir en ami. La veuve souleva la tête, regarda autour d'elle d'un air égaré, puis retomba en gémissant sur le coussin du sofa. Antoine, bien plus à cause du reproche qu'il lut sur le visage d'André que par un mouvement de vrai pardon, se décida à venir à elle. « Maman, » fit-il doucement, « laissez-moi vous reconduire dans votre chambre. » Alors elle se dressa, avec une exclamation qui était presque un cri, saisit la main d'Antoine et la pressa contre sa joue mouillée. Si, depuis un quart d'heure, elle se répandait en expressions passionnées de sa douleur, en larmes, en accusations, était-ce, instinctivement, pour l'amener à elle, pour obtenir de lui une parole? Elle s'appuya sur lui et, d'un pas chancelant, sortit de la chambre.